Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans cet évangile d'aujourd'hui, nous voyons notre Seigneur s'apitoyer, s'attrister sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui es-tu donc devenu ? Toi, la ville sainte. Toi, la ville qui était le centre du monde, avec les sacrifices dans le temple de Jérusalem, ces sacrifices qui avaient été demandés par le bon Dieu. Qu'as-tu fait de toutes les recommandations de Dieu ? Oh, certes, il reste encore à Jérusalem des âmes de bonne volonté, comme aujourd'hui il reste parmi le peuple chrétien des âmes de bonne volonté, souvent isolés, à droite à gauche, ou regroupés comme vous l'êtes dans des chapelles, puisque on nous a mis à la porte des églises pour y établir le culte de l'homme, la nouvelle religion, nouveaux sacrements, ils n'en sont pas, une nouvelle doctrine. Évidemment, nous ne pouvons pas nous reconnaître là, dans la religion de nos pères, donc il vaut mieux aller ailleurs où nous pourrons sauver notre foi et notre âme, parce que c'est ça qui compte. Nous sommes à quelques jours de la Pâque et notre Seigneur a été acclamé en triomphe à Jérusalem. Évidemment, il y a eu le grand miracle de la résurrection de Lazare. Et tout le monde est au courant en Jérusalem. Le peuple, bien sûr, qui est émerveillé de ce qui s'est passé, et les chefs du peuple qui sont plutôt embêtés. Et c'est peu dire que dire cela. Leur ressentiment, leur haine, disons le mot, vis-à-vis de notre Seigneur n'a fait que croître, et là, il semble que leur haine soit arrivée à leur apogée. Ils ne savent trop comment se débarrasser de notre Seigneur, mais notre Seigneur va dire quelque chose qui va donner de l'eau à leur moulin, si je puis dire. En effet, parlant de ce temple de Jérusalem, notre Seigneur dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai ». Évidemment, ils ne comprennent pas ce que notre Seigneur veut dire pour la plupart. Et ils se moquent de lui, ils le ridiculisent tant qu'ils le peuvent auprès du peuple en disant « Il a fallu des années pour conduire ce temple » et il prétend le mettre à terre et le relever. Et ce qui leur déplaît aussi fortement, c'est le fait que notre Seigneur va chasser les vendeurs du temple. Le temple était toujours resté un lieu de prière, réservé aux juifs d'ailleurs, les païens ne pouvaient pas y pénétrer, et le seul endroit où on faisait les sacrifices de l'ancienne loi. Mais à côté de ça, eh bien, il y avait tout un marché de bestiaux, évidemment, parce qu'on sacrifiait des moutons, des taureaux, que sais-je, enfin des animaux comme ça, pas des cochons, non, pas chez les juifs, hein. Mais les bovins, quoi, il y en avait beaucoup. Et puis, ben, il y en a qui faisaient leur commerce, présentaient leurs bovins, parce que tout le monde n'arrivait pas, n'avait pas fait 400 ou 500 kilomètres pour le sacrifice à Jérusalem. Allez, Marguerite, avance un petit peu, hein, on va pour le sacrifice, non. Il y en avait qui amenaient leur vache, mais les autres, ils achetaient sur place, ils faisaient des économies. Bon, tout le monde n'avait pas les moyens d'offrir une vache en sacrifice. Hein. Non, il y en avait, c'était quelques colombes, comme la famille de notre Seigneur, Saint-Joseph et la Sainte Vierge. Et alors, eh bien, vous savez, c'est comme aujourd'hui. Hein. Rien de nouveau sous le soleil. Vous allez voir les lieux d'apparition. Vous allez à Lourdes. Vous allez à Fatima. Qu'est-ce que vous voyez ? Les marchands du temple. Alors bien sûr, ça nous arrange, parce qu'on peut acheter un chapelet, on achète une médaille, bon, mais vous savez, ceux qui tiennent les commerces, pas forcément les vendeuses, Mais ceux qui sont patrons de ces commerces-là, ils s'en moquent pas mal de la religion chrétienne et des apparitions de la Sainte Vierge, ce qui compte, ce qui rentre dans les caisses. Hein. Donc les marchands du temple existaient à cette époque-là et c'était devenu un scandale. Notre Seigneur connaissait le secret des cœurs et il a voulu éclairer les pauvres gens qui se rendaient au temple et puis ces vendeurs pour leur montrer la gravité de ce qu'ils faisaient. Donc il a, pour une fois, parlé fort, voilà, le verbe et la main avec le fouet, pour chasser les vendeurs du temple. Et ça, eh bien, les grands prêtres l'ont noté et ont trouvé un prétexte supplémentaire pour l'accuser de troubles à l'ordre public, de troubles au bon déroulement de l'activité du temple de Jérusalem. Mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est que notre Seigneur a pleuré. Ou il n'a pas pleuré sur des pierres. Nous avons eu, bien sûr, un petit peu de nostalgie de quitter notre ancienne chapelle, rue des Français Libres, mais je ne pense pas que vous avez versé des seaux de larmes et qu'il a fallu des serviettes et des serviettes. Non, ce sont des pierres, que voulez-vous. Quand notre Seigneur a pleuré sur Jérusalem, ce n'était pas sur l'architecture magnifique du temple de Jérusalem, les cèdres du Liban qui avaient été utilisés pour la construction, tout ça. On peut dire beaucoup de choses sur les Juifs, hein, mais il ne faut quand même pas leur retirer le fait que dans les arts, par exemple, encore aujourd'hui, vous regardez le monde de la chanson, de la peinture, beaucoup, ils sont doués, hein. Ah oui, ils sont doués, bon. Alors, le temple de Jérusalem, vous savez, c'était pas du bricolage, c'était vraiment une merveille. Même les païens, ils pouvaient pas entrer dans le Saint des Saints, évidemment. Hein. Il y avait des barrières qu'ils ne pouvaient pas franchir. Mais on se déplaçait, même les non-juifs se déplaçaient pour voir cette merveille-là. Et quand notre Seigneur pleure, non, ce n'est pas sur cette architecture. Mais c'est sur ce peuple qui a sacrifié des prophètes, des patriarches, qui leur disaient la vérité. Ils n'hésitaient pas à supprimer ceux qui leur disaient les vérités en face. Ce peuple qui va se rendre coupable du crime par excellence. Il n'y a pas plus abominable le déicide. Alors je sais, ce n'est pas trop la mode aujourd'hui, évidemment, mais c'est la vérité, que voulez-vous que je vous dise. Si on reconnaît Jésus-Christ, fils de Dieu, ils ont tué le fils de Dieu. Et ils ont eu toutes les preuves qu'il était bien le fils de Dieu. Personne d'autre n'a fait tous les miracles qu'il a fait. Alors le peuple a été trompé, a été manipulé. Mais les chefs de ce peuple savaient bien ce qu'ils faisaient. Et ces larmes de notre Seigneur, eh bien, nous indiquent combien la perte des âmes est quelque chose de très sensible pour lui. Il a pleuré. Les auteurs spirituels, en résumant, nous disent qu'il y a eu quatre crises de larmes dans la vie de notre Seigneur. Quand il était au berceau, bon, bah, tous les bébés pleurent. Ça énerve les papas. Hein. Alors, va le calmer, pas dormir de la nuit. Bon, alors maman se lève, fait des petits bisous, des petites caresses, et puis des petites choses pour calmer le bébé, parce que papa grogne quand même. Hein. Bon, mais notre Seigneur n'a pas pleuré parce qu'il avait faim, parce qu'il avait soif, parce qu'il faisait chaud. Nous sommes au midi, là-bas, en Palestine, hein, bon, ou parce qu'il avait mal au dos. Les larmes de notre Seigneur au berceau, c'était en raison de la perte des âmes. Tout bébé, notre Seigneur, était Dieu, Verbe incarné. Donc il avait la conscience parfaite de tout ce qui se passait, hein, sur la terre et au ciel. Et chaque jour, eh bien, il y avait des morts, comme aujourd'hui. Chaque jour, vous avez 80 à 100 000 personnes qui meurent. Pour beaucoup, ça nous fait ni chaud ni froid. Ah ben, si c'est papa, ou si c'est maman, ou si c'est votre épouse, ou votre enfant, alors là, vous avez la crise de larmes. Mais je vous comprends. Je vous comprends, ça vous touche. Mais quand même, ça devrait nous toucher de savoir qu'il y a tant de monde à mourir chaque jour et que le jugement, pour la plupart, la damnation éternelle. Parce que quoi ? Parce que ce sont des bouddhistes, des musulmans, des animistes, des je sais pas quoi, des francs-maçons, des communistes, qui ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ, ou des mauvais chrétiens, qui vivent très mal, qui ne respectent pas les commandements du bon Dieu. Bon, ben, que voulez-vous ? Comment est-ce que le bon Dieu pourrait les prendre au ciel ? Il serait injuste si le bon Dieu a accepté au ciel tous ces mécréants, tous ces méchants, et ceux qui s'efforcent de faire le bien, ceux qui s'efforcent d'être justes, de pardonner, et tout cela, oh ben oui, bon, vous irez au ciel à côté des bandits, allez, tout le monde la même récompense, c'est pas possible une chose pareille. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, la plupart de ceux qui meurent, pas tous, mais ça c'est le secret de Dieu, la plupart de ceux qui meurent chaque jour tombent en enfer. Et nous, que faisons-nous ? On rit. Le monde s'amuse. Et le monde a inventé toutes sortes d'amusements. Il y a évidemment les grosses têtes, hein, Philippe Bouvard, ou je ne sais pas s'il existe encore celui-là, mais enfin bon. Vous avez des émissions de télévision, vous avez Internet, vous avez les cinémas, nous sommes en été, il y a la plage, donc, évidemment, tout le monde court comme un troupeau de bestiaux à la plage, hein, voilà. Puis on fait des soirées, on fait des booms, on fait des je sais pas quoi. Il faut s'amuser. Pendant que les autres se damnent, il faut s'amuser. Mais si vous vous amusez continuellement, un jour, évidemment que ça va être votre tour, comme dit l'autre de vous, se casser la pipe là. Hein. Et où finirez-vous ? Si vous avez ri toute votre vie, alors qu'il aurait davantage fallu pleurer. Car dans la vie de notre Seigneur, vous ne trouverez nulle part dans l'Évangile que notre Seigneur s'amusait, que notre Seigneur riait. On trouve une phrase, « Malheur à vous qui riez » dans la Sainte Écriture. Et on trouve dans les Béatitudes, « Bienheureux ceux qui pleurent ». Alors je ne vous dis pas ça pour que vous sortiez ce matin de la chapelle, tous avec les larmes et une tête d'enterrement. « Oh, c'est terrible, ma chère Ginette, savez-vous ? Oh là là, non, je ne pourrai plus jamais rire de ma vie avec cette bête. » Non, je ne dis pas ça. Mais enfin, il y a être de bonne humeur, être une certaine joie, si vous voulez, naturelle ou surnaturelle, et puis rire pour des bêtises, des malhonnêtetés, des choses inconvenantes, pour un honnête citoyen et pour un fortiori pour un chrétien, bon, on ne doit pas rire de ces choses-là. Par contre, imiter notre Seigneur dans le fait qu'il a pleuré sur la perte des âmes, que ce soit dans son berceau, que ce soit Jérusalem, bon, la perte de son ami Lazare, mais il l'a ressuscité, et puis sur le calvaire aussi. Il a versé des larmes sur le calvaire. Pas simplement des larmes de souffrance, mais c'était la souffrance morale de voir les âmes se perdre. Alors, oui, notre vie spirituelle ne doit pas se résumer simplement à des prières. Il faut prier. Tous les auteurs spirituels nous disent qu'il faut prier. Et que si nous ne prions pas suffisamment, nous compromettons notre salut éternel. Il ne s'agit pas, mais simplement de mettre quelques petites poussières comme ça. Bon, je prie, je dis, un autre Père, un jour, Seigneur Marie, ça suffit, je suis tranquille pour la journée. C'est trop léger, bien trop léger pour sauver son âme. Pour passer à travers tous les traits de l'ennemi, tous les pièges que le diable et ses acolytes peuvent mettre sur notre parcours pour essayer de nous faire trébucher. Mais il y a aussi les larmes qu'il faut verser. Comme je prends souvent l'exemple de la campagne, si vous voulez faire germer des carottes, il ne s'agit pas qu'il y ait un soleil resplendissant. Il faut aussi qu'il y ait un petit coup d'arrosoir. Sinon, madame, ça ne va pas germer. Et puis même si ça devait germer, ça va griller tout de suite s'il y a un soleil très, très fort et qu'il n'y a pas d'humidité. Eh bien, il faut aussi que dans notre vie chrétienne, il y ait les larmes. D'abord, pleurer sur nous-mêmes. Nous avons, c'est pas la peine d'embellir, c'est de maquillage et tout, c'est-à-dire que nous sommes bien, nous sommes chics, nous sommes tradis, donc rayonnette plus une drap, n'est-ce pas ? Nous sommes pécheurs. Alors, à différents degrés, voilà. Mais il faut se regarder dans la glace de temps en temps. Comment je suis ? Un petit peu paresseux quand même. Hein. Un petit peu impatient. Je ne supporte pas le chien de la voisine qui aboie. Je ne supporte pas ma femme qui fait trop cuire le beefsteak. Ah, je lui dis 100 fois que j'aime la viande. C'est pas mon corps, il faut que ça soit bien cuit avec moi. Mais... je lui dis 100 fois de montrer comment on fait cuire un beefsteak, et elle sera toujours aussi tarte, c'est pas faire cuire un beefsteak. Alors vous énervez à cause de votre épouse. Tu parles ! Oh là là ! Bon. Alors oui, ça peut être autre chose, ça peut être l'indiscrétion, ça peut être des mots qui sortent comme ça, parce que vous avez quelqu'un qui... Je ne sais pas ce qu'il fait, il est avec son portable, il ne faudrait pas faire ça quand on conduit, n'est-ce pas ? Et alors il est au feu rouge, et puis... Et puis il faut un sauveur, le feu, et puis il est encore avec son portable, et puis vous êtes derrière, et puis vous recoulez le feu rouge, et là vous énervez. Alors un coup de klaxon, et puis il y a des mots, donc je peux vous dire les mots, enfin vous les connaissez, hein, qu'on sort dans ces occasions parce qu'on s'est impatienté à cause de quelqu'un qui nous a fait louper le feu vert. Bon, alors ça c'est des choses du quotidien, hein. C'est des choses du quotidien, ou alors vous avez eu un petit coup de cafard, et puis il y avait la bouteille qui était là. Bon, allez, on va oublier tout ça. Hop. Alors les messieurs, ça va être du pastis, ça va être du whisky, parce que ça décape, ça. Les femmes, ça va être un petit peu sucré, un petit peu plus sucré. C'est l'alcool à la noix de coco, ou de l'alcool avec des amandes, des choses comme ça, ou du kir, des machins. Bon, allez. Mais oui, mais vous savez bien que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas quand vous allez tituber que vous allez tomber dans votre lit et que ça va régler les problèmes et que le Seigneur va être content de votre attitude. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Je ne dis pas que ça vous arrive forcément, mais tel ou tel travers, vous les avez. Donc il n'y a pas à se réjouir, se féliciter de ses péchés, de ses défauts. Il faudrait apprendre à pleurer comme notre Seigneur à pleurer sur des choses sérieuses, des choses valables. Mais ça ne vient pas forcément comme ça. Il faut aussi savoir se recueillir, soit dans une église. Ça ne va pas venir comme ça, la source ne va pas jaillir en 30 secondes, hein, en règle générale. Il faut un temps de contact avec le bon Dieu, et comme être inondé, si vous voulez, de la grâce du Seigneur, pour pouvoir verser des larmes de repentir. Eh bien, si en ce temps de vacances, où la plupart cherchent les loisirs et la fête, vous recherchez plutôt la grâce du Seigneur en pleurant vos péchés, soyez assurés que vous obtiendrez miséricorde de la part du Seigneur. C'est la grâce que je vous souhaite à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.